Les podcasts de Bia en Périgord.
Bonjour Sabine Bataille, vous êtes sociologue du travail, consultante RH et en soutien méthodologique au service de prévention santé travail. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Se reconstruire après un burn-out » qui en est à sa 4e édition. Ce livre est issu de vos travaux de recherche. En effet, vous avez modélisé les étapes de la reconstruction post-burnout après une longue enquête qui a couru de 2005 à 2012, durant laquelle vous avez rencontré 10 000 cadres et 5 000 entreprises. Dans votre approche, vous avez privilégié le « comment les personnes s'en sortent », « vers quoi elles vont ». Votre matrice a reçu le premier prix du jury de l'ANACT Dauphine. Il s'agit du seul modèle en France. Alors, ma première question est la suivante. Vous avez interrogé 10 000 cadres. Est-ce que c'est une catégorie socio-professionnelle que vous avez voulu privilégier lors de votre étude ou est-ce qu'il y a d'autres travaux réalisés ou à venir sur les autres catégories socio-professionnelles?
Alors, à cette époque-là, j'avais choisi, comme le sujet n'était pas trop abordé par les recherches, j'avais choisi de faire ce choix délibéré de cibler spécifiquement les profils cadres ou managers, en tout cas les profils qui allaient des bac plus 4 avec quelques années d'expérience de management ou seniors qui pouvaient être en fin de carrière, donc jusqu'à 60, 62 ans. Néanmoins, les années qui ont passé ont montré que le burn-out a touché tous les types de populations. Donc le modèle a été élaboré et modélisé sur des profils cadres. La méthode est plutôt adaptée à des profils plutôt effectivement en capacité d'être à l'aise avec les concepts, avec l'écrit, avec la réflexion du monde du travail. Néanmoins, les étapes de reconstruction sont les mêmes pour les profils en cadre, que ce soit des techniciens, des ouvriers, des employés ou même des indépendants, des professionnels en libéral, des coachs ou d'autres statuts d'emploi.
Est-ce que, du coup, par rapport à tous ces travaux, vous avez pu définir un profil type, même si j'aime pas trop mettre dans des tiroirs ou des cases, mais est-ce qu'il existe un profil type des victimes du burn-out ?
On serait tenté de dire oui si on voulait vraiment caricaturer à outrance le phénomène. Le problème, c'est que c'est très multifactoriel, c'est-à-dire qu'une personne ne va pas craquer de la même façon. Et en fonction des entreprises ou des systèmes d'organisation dans lesquels elle évolue, ça ne va pas se manifester de la même façon. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là en étant très précis. Si par contre, on faisait vraiment une grosse coupe, une grosse caricature, on peut dire que c'est les gens qui sont les plus investis dans leur travail, qui sont souvent les plus forts, c'est-à-dire ceux qui ne lâchent rien. C'est-à-dire que c'est des profils plutôt endurants au niveau du travail. C'est-à-dire que quand on leur confie une tâche, ils y vont. Ils y vont coûte que coûte et ils veulent aller jusqu'au bout. Même quand on leur dit que c'est plus nécessaire ou qu'il faut qu'ils arrêtent, ils ont un petit peu de mal à lâcher. Donc ça peut être une tendance de comportement qui peut se voir. Mon profil, c'est je veux y arriver et je ne veux pas lâcher. Donc forcément, on peut faire aussi un amalgame avec les perfectionnistes, avec les idéalistes, avec les gens qui sont qui ont des valeurs fortes comme la justice, la valeur, l'utopie ou autre. Mais globalement, ce sont des gens qui sont plutôt très, très professionnels. Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des gens qui avaient eu une carrière exceptionnelle, qui avaient eu des résultats exceptionnels, qui avaient réussi là où d'autres n'avaient jamais osé aller. Donc, c'est souvent aussi des gens qui ont ouvert des voies, qui ont ouvert des portes et qui ont montré un peu le chemin au prix de leurs ailes brûlées. Mais c'est souvent des profils très professionnels. C'est ce qui, moi, m'a énormément choquée à l'époque. Et en tant un peu que lanceur d'alerte, je me suis dit, mais comment peut-on détruire des compétences exceptionnelles? Et surtout, que deviennent-elles? Est-ce qu'il y a des cendres qui renaissent
Oui, le phénix, oui, on pense au phénix, ouais. Forcément, oui.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le burn-out, ce n'était pas un instant T, c'était un processus. Et qu'il y avait des racines et qu'il y avait du développement. Et surtout, ce qui m'a intéressé moi en tant que sociologue, c'est les étapes de la reconstruction qui sont bien plus longues qu'on ne le pense. Et c'est surtout ce gâchis RH qui m'a fait écrire ce livre à l'époque en disant, mais vous ne voyez pas le tsunami qui vous arrive dans 10 ans. Toutes les personnes qui ont fait des burn-out ne réinvestiront plus jamais de la même façon.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec tous les concepts de burn-out, de quitting, de démission silencieuse qui aujourd'hui sont les conséquences sur les générations juste après qui ne veulent pas, qui ne feront pas de burn-out, mais qui ont un autre mal issu de ces problèmes d'organisation dans les entreprises.
Oui.
Donc, il n'y a pas de profil type, il y a des tendances. En tant que sociologue, je ne peux repérer que les tendances.
Oui.
Maintenant, moi, je ne pathologise pas le burn-out. Hein. C'est un phénomène qui s'exprime dans un système sociologique malade. Donc, c'est la conséquence d'une organisation, c'est la conséquence d'un mode de management, c'est la conséquence d'évolution, de transformation qui se voit par des comportements et qui, malheureusement, en bout de chaîne, c'est l'individu qui manifeste les symptômes ou l'ensemble de symptômes avec des syndromes dépressifs ou des syndromes anxieux. Et ça, il faut vraiment travailler avec les services de santé au travail pour bien les identifier et ne pas tout mélanger.
Alors, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent et qui doivent alarmer, que ce soit l'entourage professionnel ou l'entourage personnel? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent?
Alors oui, la première chose qui va revenir, au niveau symptômes physiques, c'est le sommeil. C'est la première chose qui va se dérégler. Ça peut être des difficultés d'endormissement, ça peut être des réveils nocturnes, ou ça peut être un sommeil de mauvaise qualité. Donc les personnes vont vous dire « je suis fatiguée ». C'est bien banal la fatigue, on est tous fatigués. Néanmoins, la première chose que les médecins vont investiguer, c'est le sommeil. Après, si la personne continue de travailler au-delà du nécessaire, c'est-à-dire le soir, quitte à emmener son ordinateur dans le lit. Alors, on ne travaille pas dans le lit normalement. Il ne faut pas le faire trop souvent, en tout cas, ça dérègle autre chose. Mais donc, le sommeil, tant qu'on y est, la libido, donc le sommeil se dérègle, la libido se dérègle, l'alimentation se dérègle. Ça, c'est tous les symptômes qu'on peut déjà ressentir dans son corps à condition d'être bien dans son corps. Donc, ça suppose déjà d'être un corps un peu en forme. Et puis ça, l'entourage le voit forcément. L'entourage, le conjoint peut être le premier observateur de ça. Les enfants, la famille. J'ai beaucoup, moi, de mamans qui m'appellent, par exemple, ou de femmes qui m'appellent pour leur conjoint, pour leur enfance. Et je perçois qu'il est en plein burn-out. Qu'est-ce que je peux faire? Donc l'entourage, souvent, le voit beaucoup mieux et plus en avance de face que la personne elle-même. Et puis, dans l'entreprise, ce qu'on va voir, c'est des comportements plutôt que des symptômes. Et là, il faut être un manager assez averti pour bien repérer ces comportements qui peuvent être parfois floutés par la personne qui ne veut pas montrer qu'elle a du mal à s'en sortir ou qui, au contraire, regorge d'astuces pour travailler encore plus. C'est ça qui peut flouter un petit peu les diagnostics, c'est que bien souvent, quand la personne est dans le déni, elle est aussi, boostée par l'adrénaline, par tout ce qui fait que le corps est un merveilleux dopant naturel. Il ne se sent pas en déni ou il ne se sent pas en difficulté. Donc, la personne peut garder le change pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et pas du tout bien sur le long terme. Mais du coup, dans l'entourage pro, c'est plus compliqué à repérer. On peut néanmoins repérer des gens qui vont commencer à s'isoler. Par exemple, ils vont avoir moins de temps pour aller déjeuner avec le groupe, ou qui vont prétexter de finir un rapport ou une synthèse, ou qui vont être obligés de prendre des rendez-vous entre midi et deux pour assurer la charge, par exemple, ou qui vont travailler, qui vont s'envoyer des mails à des heures un peu incongrues, ou qui partent le samedi et dimanche. Donc, il y a des petits signaux faibles qu'on peut vraiment repérer en amont. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que dans 96% des cas, les gens se plaignent de leur travail, mais il y a seulement 7% qui vont oser aller en parler au RH. Alors, quand je dis RH, ça peut être manager, hein. Mais en général, il y a très peu de personnes qui pensent, très peu de salariés qui pensent pouvoir en parler. Donc, il y a une forme de tabou aussi autour du burn-out chez les profils qu'on a évoqués tout à l'heure. Une sorte de chagrin d'honneur.
J'allais vous anticiper sur ma prochaine question parfaitement. Justement, j'allais vous demander en quoi, selon vous, ce burn-out, vous le qualifiez, vous, en tous les cas, de chagrin d'honneur?
C'est parce que l'honneur, c'est une force. L'honneur, c'est du temps des chevaliers. C'est la vertu avec le blason, avec le combat. Et on ne peut pas faillir. C'est un peu, dans le champ militaire, l'honneur, c'est quelque chose qui se défend jusqu'au dernier souffle. Et dans l'entreprise, moi, ça m'a paru aberrant qu'on puisse mourir dans le travail. C'est extrêmement violent, cette phrase, mourir pour un travail. Ça, c'est pas possible. Et le chagrin, c'est quelque chose de très invisible, de très pudique également, de très intériorisé. Il parfois ne s'exprime pas par des larmes ni des émotions de colère. Le chagrin peut être très dévastateur et très silencieux. Et dans ce sens, le chagrin d'honneur, enfin, le burn-out me fait vraiment penser à ce chagrin d'honneur. C'est quelque chose qui est invisible, lancinant, qui n'apparaît pas tout de suite, qui ne se manifeste pas de la même façon en fonction des gens et qui est un peu, c'est leur ADN de vie personnelle et professionnelle. Et c'est en ce sens-là qu'on touche vraiment l'identité professionnelle pour nous. C'est un chagrin identitaire, le burn-out. C'est une mue. C'est un changement, souvent, ce qui évoque les reconversions. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais quand il y a une rupture de ce type-là dans la vie professionnelle d'une personne, il y a vraiment un avant et un après.
Oui.
Une vraie rupture d'identité. Qui n'est pas forcément facile à vivre pour la personne et qui est parfois incompréhensible de l'extérieur pour l'entourage, encore une fois, qui ne comprend pas ces volte-face du conjoint ou de la conjointe, qui voudrait aider, mais qui ne peut pas, tout simplement, parce que c'est ce que vous rappelez vraiment les psychologues, on est dans le registre de l'impensé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore le verbaliser, quand même pas conscience, on est peut-être dans la préconscience, on a juste le corps qui réagit, on a l'ego qui réagit, le côté spirituel en soi qui réagit, le côté universel qui fait qu'on est tous des hommes et des femmes vivants, existentiellement parlant. Mais on vibre chacun différemment en fonction de notre propre histoire et en fonction de ce qu'on heurte dans l'entreprise. En fait, c'est comme si on était aveugle dans une pièce noire et il y a des objets partout, par terre, au mur, un peu comme dans les trains fantômes de votre enfance. Hein. On touche des choses et on ne sait pas ce que c'est et ça fait des répercussions. Donc ça manifeste des émotions qu'on peut plus ou moins gérer. Parfois, ces émotions nous débordent et parfois le corps... réagit jusqu'à un certain point où malheureusement il est même aussi débordé.
Alors justement dans votre enquête vous avez travaillé justement sur l'après et moi ce que j'avais envie de vous demander c'est sous quelles conditions une vie après un burn-out est-elle possible? Comment justement on reconstruit cette identité professionnelle qui a été détruite? Et vous avez pu du reste répertorier trois idéotypes justement qui correspondent à des grandes tendances par rapport aux personnes victimes de burn-out.
Alors, comment... oui, là, heureusement, la vie après un burn-out est possible. Heureusement, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que même si le burn-out est difficile à vivre, est difficile à diagnostiquer, est difficile à vivre, on va dire ça comme ça, c'est néanmoins une vraie transition. C'est presque une rétrogradation volontaire pour aboutir à une nouvelle étape, c'est un peu comme les étapes de deuil, hein, qui vont permettre à la personne de pouvoir reconstruire ses fondations, de reprojeter son avenir et de dire que désormais, il lui convient, il ne lui convient plus. Donc, fort heureusement, il y a un après-burnout, mais pour passer à l'après-burnout, il faut vraiment bien analyser les causes de l'avant, c'est qu'est-ce qui a précipité tout ça, qu'est-ce qui a mis la personne dans cette situation. Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas failli, au contraire, elle a réussi. Pourquoi a-t-elle réussi aussi bien alors qu'elle se sent aussi mal après son burnout? Et les conditions de la reconstruction sont les suivantes, c'est que il n'y a pas de reconstruction possible sans un temps de repos. C'est très important de le souligner parce qu'il y a énormément de gens qui ont du mal avec le vide, qui ont du mal avec l'arrêt. C'est le cas typiquement des idéotypes, le numéro 3, c'est celui que j'ai appelé le funambule en équilibre. C'est celui qui ne peut pas, qui ne supporte pas l'arrêt, qui ne peut pas tout simplement parce que ça peut être un consultant, un libéral ou un avocat, s'il s'arrête, il n'a pas de protection.
Oui, il y a déjà oui, bien sûr, il y a les raisons matérielles.
Voilà, donc c'est cet idéal type-là, en fait, il se met toujours plus ou moins en danger, mais quand il tombe, alors il peut faire des burn-out à répétition sur 15-20 ans, c'est le cas justement de Claire dans le burn-out, les leçons qu'elle devait en tirer. Et c'est au bout du troisième, avec l'enquête, avec les questions, qu'elle a pris conscience qu'à chaque fois, elle avait zappé le rebond. Et tout simplement parce que c'est une fille dynamique, intelligente, vive, qui n'arrêtait pas et qui ne savait pas s'arrêter. Donc il a fallu qu'on lui apprenne à s'arrêter, qu'on lui apprenne à respirer, des choses toutes simples. Mais comme un guerrier, à un moment donné, bah, on parle du repos du guerrier, mais c'est aussi le sommeil, c'est ce qu'on appelle le corps gisant. C'est ce que Christophe Dejour appelle le corps gisant. C'est le corps qui se repose, qui gît, qui dort, qui se ressource, qui fait que la biologie repart naturellement. Donc cette étape du repos, très très souvent, elle est difficile à vivre parce que c'est dans cette étape de repos que tout va remonter. Les angoisses, les échecs, le fameux chagrin d'honneur qui va vous faire dire j'aurais dû, j'aurais pas dû, quand il m'a dit ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller voir tous ces fameux avocats, etc. Donc dans cette période de vie, va remonter tout ce qui n'a pas été réglé. Et au niveau psychique, ça peut faire aussi comme des bulles d'angoisse qui vont remonter à un moment donné où on se dit, bon, puisque c'est ça, je vais vite retourner en activité pour ne plus y penser.
Oui, et puis il y a peut-être aussi ce qui se joue aussi, c'est le rapport que l'on a au travail. Parce qu'on vous parlait de personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui sont dans le déni, qui ne vont pas justement se reposer. Il y a certainement quelque chose de l'ordre du rapport que l'on entretient avec le travail. Quelle est la place qu'on lui donne dans sa vie ?
C'est ça, vous avez tout à fait raison. Le rapport au travail, c'est ce qu'on appelle la centralité du travail. C'est un concept qui a été inventé par Daniel Mercure, c'est un Canadien, un sociologue canadien. Il explique que la centralité du travail, c'est la place que le travail occupe dans notre vie. Donc cette centralité, elle peut être économique, c'est-à-dire que je travaille pour des raisons économiques, mais ce travail, il peut aussi être central dans ma vie pour des raisons expérientielles, c'est-à-dire que je suis fusionnée avec mon travail. Mon travail, c'est ma vocation. Mon travail, c'est toute ma vie. Et il y a des personnes qui vivent pour leur travail, c'est-à-dire que leur travail tue leur identité professionnelle. Et enfin, on le sait, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ça pose la question de l'identité. Chez nos voisins européens, chez les Italiens par exemple, c'est ben, d'où tu viens ? De quel pays tu viens, de quelle région tu viens, de quel contrée tu viens. Donc, en France, on est particulièrement attaché à l'honneur, de par notre histoire, mais aussi à l'engagement. Donc, le travail occupe une place centrale dans nos vies. Donc, l'identité professionnelle est parfois cristallisée, figée autour d'un devoir, qui fait qu'il y a moins de souplesse, il y a moins de réactivité, moins d'agilité plutôt chez la personne, et ce rapport au travail, quand il prend trop de place dans sa vie perso, bah, il prend la place d'autre chose.
Oui.
Et c'est cette autre chose qu'il faut laisser remettre dans la reconstruction. Donc, l'étape du repos est très importante. Après, on va retrouver des étapes, moi j'ai appelé de restockage, c'est un vocabulaire sociologique, hein. Il ne faut pas le voir comme de la gestion, mais le restockage, c'est le temps qu'on va apprendre pour soi. Ça peut être restocker des relations amicales, restocker du loisir, restocker des choses qui vous font du bien, et aller chercher des choses qui vont remplir ce vide par du plaisir, du positif et de l'envie. Mmh. Et ça, c'est pas gagné.
Non.
Pour les gens qui sont anxieux ou dépressifs, à ce stade-là, bah, c'est pas gagné, c'est un effort.
Exactement, oui, c'est ça, c'est ce qu'on comprend quand les personnes expliquent effectivement ce qu'elles vivent. Alors justement, vous avez conçu une matrice à l'issue de cette enquête. En quoi elle peut être un support à la fois pour les victimes de burn-out et aussi donc pour les managers RH, services RH des entreprises?
Alors cette matrice, elle a été construite sur la base de l'enquête. Et cette matrice, en fait, c'est la représentation visuelle d'une forme d'infographie de personnes qui ont traversé toutes les mêmes étapes. Les seules questions que je posais, c'est comment vous en êtes sorti et de quoi vous avez eu besoin. Et en modélisant toutes ces questions-là, en cherchant les dénominateurs communs, cette matrice est apparue comme étant essentielle dans la reconstruction des gens, c'est-à-dire qu'ils passent tous par les mêmes étapes, et ça s'est vu très rapidement au bout du 20e entretien. C'était assez surprenant pour moi, parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'est une blague. Et au bout du 20e entretien, toutes les personnes me disaient la même chose. Toutes. Qu'elles soient issues d'un milieu ouvrier, ou qu'elles soient issues d'une fonction cadre indépendante, ou qu'elles soient issues d'un secteur industriel, ou au contraire, bancaire, assurance. elles passaient toutes par les mêmes étapes sans se connaître, sans avoir le même âge. Donc c'est ce qui fait la puissance de cette matrice. En fait, c'est une forme de cartographie. Et quand on voit la personne, on peut la positionner comme un point lumineux sur un GPS. Donc on sait où elle en est et on sait du coup d'où elle vient, les étapes qu'elle a déjà traversées. Et surtout, ce qui intéresse la personne, c'est les étapes qui vont lui permettre d'avancer, donc les étapes qu'elle va traverser plus tard. Donc ça permet à un consultant qui utilise cette matrice de savoir en gros le nombre de séances qu'il faudra à la personne, le nombre de mois et surtout les étapes par lesquelles son client va passer pour ne pas, faudra pas le brusquer non plus, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas sacrifier des étapes, il faudra parfois l'arrêter plus longtemps sur une étape parce que la pédagogie de cette étape n'a pas été assimilée et que si elle n'est pas assimilée, bah c'est là qu'on trouve toutes les rechutes possibles et inimaginables de répétition de scénario. Donc cette matrice, elle a été appréciée par la NACT et Dauphine parce qu'elle est non pathologisante. Ça peut faire un peu froid comme ça parce que c'est un outil sociologique, hein, c'est un outil de conception et de modélisation, mais du coup, elle ne pathologise pas la personne ni l'entreprise. Il fait que le but de cette matrice, c'est de ramener la personne vers l'emploi. Je ne parle pas de vers l'entreprise. Hein. Ça peut être vers l'emploi, mais ça peut être vers une création d'activité, pourquoi pas, ou vers un changement d'activité, ou vers une autre entreprise, ou vers un autre projet professionnel. Mais c'est un réel cheminement. Et c'est ça qui fait que j'ai pu obtenir le premier prix d'Anne, c'est qu'elle est non pathologisante et non culpabilisante, et surtout, elle met en dynamique la personne. Elle l'oblige à se mettre en mouvement. On peut faire des mouvements arrière, on peut faire des mouvements de côté, c'est-à-dire qu'on peut aller explorer des pistes professionnelles sans aucune difficulté, mais là, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est des explorations, et ça fait partie de la redécouverte de son identité professionnelle. Et c'est presque un jeu de pistes quand on arrive à rendre la personne acteur de sa reconstruction. C'est un jeu de piste assez intéressant, puisque c'est lui qui choisit vraiment les points qu'il veut travailler.
Donc vous, après, un consultant, il peut prendre la personne, elle peut être en cours de route. Elle a déjà, toute seule, peut-être avancé certaines des étapes, et elle est à un instant T, à ce moment-là, dans le temps et dans l'espace, elle se situe à tel point de la matrice, il va la prendre en cours de route.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on prend les personnes trop tôt dans la matrice, elles sont encore engluées ou ralenties par les aspects physiologiques, psychologiques. Et là, c'est pas notre travail. On n'est pas des psys, hein, on est des sociopédagogues. Donc, on est là pour redynamiser l'univers professionnel. Mais à ce stade-là, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité avec, par exemple, les psychiatres, les infirmiers ou des médecins des services de santé au travail pour dire, voilà, la personne, là, si elle revient, elle s'effondre. Nous, on peut rien faire. Si éventuellement, une reprise à mi-temps ou à tiers-temps thérapeutique, ou à temps partiel thérapeutique, c'est vous, médecin, qui prescrirez cette durée de temps. Mais nous, pendant ce temps-là, on peut consolider légèrement. Et puis, si les personnes sont beaucoup plus avancées, ça n'empêche pas qu'elles peuvent avoir des petits paliers, on va dire des paliers d'évolution dans lesquels elles ont l'impression, la sensation de rester bloquées, de ne pas avancer, et pourtant il se passe des choses. C'est-à-dire que chaque personne va évoluer différemment à son rythme, mais en passant par les mêmes étapes. En gros, si vous prenez quelqu'un qui est en arrêt maladie depuis 3 mois, on suppose que le corps va mieux, que le corps gisant s'est relevé un petit peu et qu'on peut passer au corps pensant. Et qu'on peut commencer à entamer une réflexion professionnelle. Et l'idéal, c'est de venir nous voir entre 3 et 6 mois d'arrêt, parce qu'en dessous, c'est un peu tôt, si le burn-out a vraiment épuisé les ressources. Et puis au-dessus, il peut se produire une forme de refus d'obstacle, c'est-à-dire je ne veux pas y retourner et je n'ai plus d'avenir dans cette boîte. Et du coup, au-delà de 6 mois, l'horizon devient un peu plus... nuageux. Et alors, il y a d'autres leviers, hein. On peut repartir plus en profondeur sur des logiques de formation, de bilan de compétences, mais on peut aussi former la personne pendant qu'elle est en arrêt maladie. Il y a plein de dispositifs qui sont accessibles aujourd'hui, comme les essais encadrés, qui peuvent permettre à un salarié en burn-out de ne plus jamais retourner dans son entreprise en passant par une étape formation et en sortant diplômé et en allant directement vers d'autres horizons professionnels. Il y a plein de dispositifs qui existent aujourd'hui.
Alors justement, cette expérience est particulièrement douloureuse. Je suppose que voilà, avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Pour autant, est-ce qu'on peut la considérer comme une opportunité?
Ah oui, oui. Oui, c'est tous, enfin, j'allais dire 100% des gagnants ont remporté leur chance, mais toutes les personnes qui sont reconstruites vous diront ça. C'est merci mon burn-out, heureusement que ça m'est arrivé à cette époque-là. Mais quand ils sont dedans, ils vous le diront pas. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, autant le burn-out est un processus lent, autant la reconstruction est également un processus lent. Et pour moi, il n'y a pas de reconstruction sans retour vers l'emploi.
Oui.
Donc c'est très important de comprendre que quand on veut être accompagné dans cette période-là de sa vie, faut pas croire que ça va durer deux séances. Enfin, c'est pas possible. Et ça va durer à peu minimum entre 6 et 8 mois déjà. Et en fonction de l'état de la personne, si vous pouvez faire des séances rapprochées, c'est bien. Mais si vous faites trop de séances rapprochées, vous vous épuisez. En
oui,
la personne aura une autre prédiction. Et la tyrannie du projet professionnel, mon Dieu, ce que c'est horrible, quoi.
Alors, justement, sur les 10 000 cadres que vous avez rencontrés, vous avez une idée, justement, du pourcentage de ceux qui se sont reconstruits?
Dans les personnes, dans les idéotypes, par exemple, dans les trois idéotypes, ceux qui se reconstruisent le mieux, c'est les idéotypes numéro 2, c'est les ambitieux et les enchantés. Là, on a facilement 80% de réussite. C'est des personnes qui vont peut-être revenir dans leur travail, mais en étant moins ambitieux, en revoyant un petit peu ce qu'on a fait. Ouais. D'ailleurs, la centralité du travail. Donc, ils savent qu'ils ont compris pourquoi ils étaient tombés, ils ont compris ce qu'ils voulaient faire désormais, ils ont priorisé leur vie perso et leur vie pro et des nouveaux repères. Donc, ceux-là, ils s'en sortent très, très, très facilement. Les funambules en équilibre qu'on a vu tout à l'heure sont un petit peu plus complexes parce qu'ils s'en sortent, mais par intermittence. C'est-à-dire qu'il leur faut forcément un soutien, il leur faut forcément quelqu'un à côté, que ce soit un conjoint, une conjointe, un colocataire, la famille, peu importe. Il leur faut un écosystème de repli, prioritairement économique, parce que c'est souvent ça qui fait qu'ils retombent. Et il leur faut un écosystème extrêmement bienveillant qui les accepte tels qu'ils sont, avec leur génie intellectuel, avec leur énergie d'honneur et de devoir, parce que ce sont des personnes d'honneur et de devoir. Et surtout, il faut qu'ils acceptent qu'une partie de leur travail peut éventuellement être déléguée à quelqu'un. Donc, ceux-là, ils s'en sortent avec une préhension de leur comportement. Donc, ça met un petit peu plus de temps, mais ils s'en sortent. Et puis, les idéotypes numéro 1, ce que j'ai appelé vraiment les artistes incompris, alors eux, ils font parfois des envolées lyriques très rapides. Donc, on a l'impression qu'ils s'en sortent très vite d'affaires dans les 3-4 premiers mois parce qu'ils ont fait un projet de reconversion qui n'avait rien à voir avec leur vie d'avant, donc ils sont un petit peu tout feu tout flamme et ils partent sur des projets très ambitieux, très, très porteurs de valeur pour eux. Et ils ont vraiment l'impression de s'être reconquis. Et c'est la confrontation à la réalité qui peut faire après que quelques mois plus tard, voire un ou deux ans plus tard, il y a une sorte de rechute, mais une confrontation réelle qui les met un peu en difficulté.
Toutes les personnes en fait qui se sont reconstruites aujourd'hui considèrent que le burn-out a été une véritable opportunité pour elles, en fait, c'est ça?
Oui, c'est une dure période à passer, mais j'allais dire comme les crises de vie ou les mi-temps de vie, les mi-temps de carrière. Enfin, dans la gestion de carrière, on est habitué à avoir des profils qui se posent des questions sur leur évolution deux fois dans leur carrière. Hein. On sait qu'il y a des phases où il y a des paliers. Le burn-out accélère juste ses paliers, accélère juste ses calendriers, mais globalement, on sait que ça arrive.
Oui.
Il n'y a pas une vie plate.
Non.
Rose.
J'arrive à la dernière question. Donc, vous avez créé le réseau Reconstruction Post-Burnout, RPBO, qui est présent sur tout le territoire français. Vous avez des consultants donc, qui sont labellisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce réseau?
Alors, le fonctionnement de ce réseau, il est né en fait en 2012 à la suite des travaux. Et son ambition était de professionnaliser les ressources humaines sur le burn-out. Grande ambition, en
oui.
Fait, ce ne sont pas les RH qui sont venus, ce sont plutôt les psychologues du travail, ce sont les coachs jusqu'en 2015 à peu près. Et à partir de 2015, il y a une petite tendance qui s'est inversée, ce sont les services de santé au travail, les médecins du travail et les personnes qui travaillaient dans les services de santé au travail ou la sécurité sociale qui se sont interrogées sur ce nombre de personnes qui étaient en arrêt. Donc les profils des consultants RCDO passent du psychologue du travail au coach au consultant RH. Et depuis les années Covid, en fait, je recrute énormément d'anciens RH ou d'anciens DRH déçus de l'entreprise et de la gestion des ressources humaines qui veulent retrouver les relations humaines au sens gestion du terme et qui veulent s'installer parfois à leur compte ou qui veulent participer à l'accompagnement des préventions et surtout du mieux-être au travail. Donc ce réseau aujourd'hui comprend 61 personnes. Ce sont des personnes qui ont un parcours dans l'entreprise minimum de 15 ans, 20 ans. Donc, c'est une forme de seniorité que je recherche, hein, des gens qui ont un parcours de vie, tant perso que pro.
Oui.
Certains ont fait un burn-out, mais ce n'est pas un critère de sélection du tout pour y rentrer. Qu'on cherche à faire dans le réseau RPBO, c'est accompagner tout type de profil, avec un esprit vraiment bienveillant et surtout très professionnel. Donc, ils sont formés à la matrice RPBO. Ils connaissent tous les concepts qui sont derrière cette matrice, ainsi que tout le protocole RPBO qui comprend tout un classeur d'exercices qui permet d'accompagner la personne en fonction des étapes qu'elle va traverser. Et à l'issue de leur formation, ils sont audités et supervisés pour vérifier qu'ils utilisent correctement le protocole RPBO pour avoir des résultats. Et ils doivent nous démontrer dans leur pratique comment ils ont accompagné les personnes en reconstruction et qu'est-ce que ça a donné en termes de débouchés. Donc, c'est une formation qui se fait sur le long cours. Et il y a des séminaires de professionnalisation pour permettre à certains, par exemple, les psys du travail de se former plus dans l'aspect juridique, qu'ils connaissent un peu moins.
Oui.
Et puis, on fait aussi appel à des experts ou des spécialistes avec lesquels on a l'habitude de travailler, donc des psychiatres, des avocats du travail. Où on a travaillé, par exemple, dernièrement, et on va travailler avec un médecin qui fait de la micronutrition.
D'accord.
Et on sait que la micronutrition joue un rôle majeur sur les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs, c'est tout ce qui permet la cognition, la mémorisation, tout ce qui fait qu'un cerveau est aussi en bonne santé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes après un burn-out qui ont l'impression d'être ralenties. Ils ont une idée un petit peu comme les Covid longs. Ils vont ressentir un peu les mêmes sentiments, sensations de fatigue, de manque de concentration.
Oui, la mémorisation aussi peut-être.
Ouais. Donc, ça peut venir tout simplement d'une petite carence. Donc là, il y a plein de choses à connaître et puis orienter vers les bons spécialistes. Et on essaye de faire des supervisions justement pour que les personnes soient toujours correctement accompagnées. Donc, je fais très attention à la qualité des consultants qui veulent venir nous rejoindre et surtout à l'éthique, une éthique irréprochable parce qu'on travaille beaucoup avec des personnes qui sont au passage de vulnérabilité, on va dire, pas forcément fragilité, mais ils traversent une étape, un épisode un peu compliqué. Donc, pour qu'il n'y ait pas de projection sur eux, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, je recrute vraiment des gens extrêmement bien dans leur tête, droit dans leurs bottes aussi, parce que s'ils ont affaire à des entreprises ou des DRH, parfois malvenants ou autres, bah, il faut qu'ils puissent avoir du répondant, avoir de l'explication derrière et surtout ne pas chercher la confrontation puisque pour moi il n'y a pas de coupable mais il n'y a que des responsables et le but étant le retour à l'emploi, il faut bien travailler avec un esprit de médiation pour faire en sorte que les dispositifs se passent au mieux dans les entreprises.
Ce qui pourrait être la prochaine étape justement, peut-être pour agir plus en termes de prévention, ce serait justement que les RH s'emparent de cette matrice. Justement, peut-être pour prévenir.
Alors oui, c'est très juste ce que vous dites, puisque cette matrice, il y a une consultante qui en fait nous a fait une révélation pour nous dire ben, « Moi, la matrice, je ne l'utilise pas pour la reconstruction. » Je lui dis « Quoi ? Yes ?» Elle dit « Je l'utilise pour la prévention. » Et elle n'a pas été faite pour ça, mais elle dit « Mais si, c'est simple, tu la retournes à l'envers, tu as toutes les étapes de la prévention derrière. » Et c'est intéressant parce que effectivement, c'est une approche dont pourraient s'emparer les entreprises Mais souvent, ce sont plus les dispositifs de prévention primaire et secondaire qu'elles privilégient. C'est normal, c'est ce qu'on leur demande.
Oui.
Pour moi, les autres types de prévention sont vraiment que du sur-mesure. Une fois que la personne a fait un burn-out, la reconstruction et le retour ne peuvent se faire que sur du sur-mesure.
Oui.
Le dispositif peut se déployer, la matrice peut s'utiliser, c'est un outil. Maintenant, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle philosophie de maintien dans l'emploi. C'est vraiment ça qui est très important.
Alors, pour le Périgord, puisque nous sommes en Périgord, c'est Angélique Louchard, je crois, qui est consultante pour RPBO,
oui.
C'est ça ? Donc, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a aussi le site, c'est
www.rpbo.fr.
Oui. Fr. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, donc je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Se reconstruire après un burn-out », qui a eu un grand succès et ce qu'on peut comprendre puisqu'il en est à sa 4e édition. Voilà, mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup, Sabine, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Merci à vous, Christine.